obscur, clair des hauts pins, tu trouveras son rosaire. Clair obscur, trouble de crâne, tu trouveras effet. Clair obscur, clair des hauts pins, tu trouveras son rosaire.
Bonjour, bonjour
et bienvenue à toutes et à tous, bienvenue à celles et ceux qui viennent très régulièrement, à celles et ceux qui viennent de temps en temps ou peut-être pour la première fois, et nous souhaitons tout particulièrement une très cordiale bienvenue à la famille de Nicolas et Élise avec Noah qui sont là aujourd'hui avec leurs proches et leurs amis. Merci d'être avec nous aujourd'hui, d'être venu nous rejoindre pour ce culte. Nous sommes dans la joie et nous souhaitons aussi la bienvenue à Jean-Marc et Martine Pillou qui sont également là. Et tous ceux qui nous regardent en streaming, qu'ils se sentent aussi maintenant accueillis par nous. Et nous incluons dans notre accueil toutes celles et ceux qui ne peuvent pas venir aujourd'hui pour diverses raisons. Donc, soyez tous et toutes les bienvenus. Aujourd'hui, dans notre culte, comme vous l'avez deviné, il va être question de la présentation d'un enfant, donc de Noah. Et avant de commencer, j'aimerais remettre ce culte dans les mains de Dieu et je vous invite donc à prier. Seigneur, nous te remercions pour chaque personne qui est ici présente, qui va entendre ta parole et entendre le témoignage d'Élise et Nicolas. Nous te remercions pour Noah, ici présent, et pour tous les enfants de cette église. Je te demande de nous remplir de joie, de ta joie, qui est bien plus belle, bien plus grande et bien plus profonde que celle du monde. Amen.
Et je lis encore quelques versets du psaume 8. Ô Seigneur, notre Maître, ta renommée est grande sur toute la terre. Ta majesté surpasse la majesté des cieux. Donc ça parle d'une certaine grandeur de Dieu, une certaine grandeur du Christ, parce que ce psaume, il parle aussi de Jésus. Autant sur la terre que dans les cieux. Et pourtant, le psaume, il continue comme ça. C'est la voix des petits-enfants, des tout-petits-enfants, que tu opposes à tes adversaires. Elle est comme un rempart que tu dresses pour réduire au silence tes ennemis les plus acharnés. Les tout-petits, les jeunes, sont aussi des exemples pour les adultes. Et si nous devons grandir dans notre relation à Dieu, devenir adultes, alors ça, ce sera le thème du message de tout à l'heure. Jésus nous demande aussi de redevenir comme des petits-enfants. Et c'est pour ça aussi qu'on se réjouit justement d'accueillir les plus jeunes et puis d'accueillir Noah en particulier ce matin. Et le psaume continue, « Quand je vois les cieux que tu as créés, la lune, les étoiles que tu y as placées, je me demande l'être humain. A-t-il tant d'importance pour que tu penses à lui? Mérite-t-il vraiment que tu t'occupes de lui ?» Ben oui. Et le Christ, et nous sommes aussi à la suite du Christ, nous en sommes le témoignage. Le Christ en est le témoignage le plus fort en passant par la croix. Alors pour la suite de ce culte, qu'on puisse se dire au Seigneur, notre Maître, ta renommée est grande sur toute la terre. Et que nous puissions justement le dire, en témoigner, au travers de ce que nous faisons ce matin, au travers de ce temps de louange et la suite du culte. Voilà.
Bonjour à tous. Quelle joie de pouvoir louer ensemble le Seigneur. Lors de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, sur son ânon, comme le prédisait la prophétie de Zacharie 9:9, les foules ont crié « Hosanna », le reconnaissant comme le Messie et le Sauveur tant attendu. Hosanna voulant dire en grec, en hébreu, « Sauvons-nous, sauve-nous maintenant ». Nous aussi, nous voulons ouvrir les portes au roi, au Dieu de gloire, en chantant « Hosanna », puis nous enchaînerons avec « Je louerai l'Éternel ».
Marchons ensemble,
l'ennemi tremble,
l'ennemi tremble.
Dieu est avec nous,
Dieu est avec nous.
Chassons les
Le prochain chant exprime une profonde soif de la présence de Dieu et un désir de, se laisser transformer par l'action du Saint-Esprit. Ouvrons-lui notre cœur en lui confiant nos aspirations comme nos faiblesses, que le Saint-Esprit puisse façonner nos pensées, nos attitudes et nos choix selon sa volonté.
Pour poursuivre, les potes, vous allez dans un instant continuer ce temps dans vos groupes, mais on va prier pour vous. Merci Seigneur de pouvoir te louer ensemble. Merci Seigneur pour les enfants, les tout petits et les plus grands. Ils sont précieux pour toi, ils sont aussi des exemples pour nous et nous les remettons entre tes mains. Que tu les accompagnes particulièrement durant ce temps. Que tu les protèges, que tu les accompagnes également jour après jour dans leur famille, à l'école, dans leurs activités. Merci parce que tu es avec eux. Amen. Alors merci aussi à Zena et Chantal, je crois, pour ce matin. Je vous laisse rejoindre vos groupes. Et les potes, vous pouvez descendre. Et puis Noah et tes parents, ben vous pouvez vous avancer.
Bonjour à chacun, à chacune. C'est un très grand privilège, un vrai bonheur d'être avec vous ce matin pour un geste qui compte, même s'il n'a rien de magique. Nous ne sommes pas là dans un geste saint au sens du baptême ou de la scène que nous allons prendre ensemble tout à l'heure, mais nous sommes réunis pour un geste de solidarité, de recommandation. C'est le sens d'une présentation d'enfant. La présentation d'enfant, elle prend racine dans l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, où on découvre que les garçons, seulement les mâles, étaient présentés au bout de quelques jours à Dieu, dans le temple, au tabernacle, etc. Un geste accompagné à l'époque par la circoncision. Et puis l'histoire continue de se dérouler, heureusement. Et l'histoire, elle prend un tournant particulier avec Jésus, qui nous démontre que ce qui compte, ce n'est pas la circoncision de la chair, un bout de peau ôté, mais la circoncision du cœur, ce qui se passe à l'intérieur, ce qui découle, et on va prier en ce sens, d'un choix personnel, résolu, de Noah, un jour, de donner, de confier sa vie à Dieu. Et c'est pour ça que nous faisons ce geste ce matin. Dieu, il connaît déjà Noah, et je pense que le témoignage d'Élise et Nicolas, dans quelques instants, nous dira à quel point Dieu est en action dans la vie de Noah. Donc Dieu le connaît. On n'est pas en train de lui dire, ben voilà quelqu'un de nouveau, mais on lui le recommande. Parce que Noah et ses parents auront besoin de toute la grâce de Dieu pendant toute leur vie. Et puis le geste de présentation, il est aussi communautaire. Nous vous le présentons, nous vous les présentons, nous vous disons, voilà un petit gars qui vient d'avoir une année, et qui, Dieu voulant, grandira au moins quelques semaines, quelques mois, quelques années, peut-être une ou deux décennies au milieu de nous. Prenez-en soin, comme nous prenons soin de tous nos enfants, de tous nos jeunes. On verra tout à l'heure à quel point ils comptent pour nous. Prenez soin de Noah. Prenez soin de Noah. Saluez-le. Taquinez-le. Priez pour lui. Soutenez ses parents. Nous vous le présentons. Et je vais laisser maintenant la parole à Élise et Nicolas qui ont un beau témoignage à partager avec nous. Puis tout à l'heure, nous prierons en communauté pour Noah.
Chers frères et sœurs d'Église, chères familles et chers amis présents avec nous en streaming et sur place ce matin. Aujourd'hui, c'est avec énormément de reconnaissance et de fierté que nous venons devant vous pour témoigner de l'aventure la plus intense de notre vie, remettre la vie de Noah à notre Seigneur et Sauveur Tout-Puissant Jésus-Christ et partager avec vous ce temps précieux. Les quatre mots qui nous viennent à l'esprit quand on pense à ce qu'on a vécu ces dernières années, c'est espoir, cheminement, persévérance et confiance.
Tout a commencé avant notre mariage, quand nous avons parlé enfant pour la première fois. Nous avons pris conscience de deux réalités lors de cette discussion importante, surtout lorsqu'on s'apprête à s'engager pour la vie. La première, notre souhait profond de fonder une famille, d'avoir donc à éduquer un ou plusieurs enfants. La seconde, que la concrétisation de ce projet familial ne serait clairement pas un long fleuve tranquille, car la finalité de devenir parent un jour était très incertaine. En effet, pour avoir la bénédiction d'accueillir Noah dans notre famille, il a fallu passer par un parcours de procréation médicalement assistée. Ce périple de 6 ans s'est traduit par de nombreux rendez-vous, des traitements, divers examens médicaux et une femme qui a eu à cœur d'aider des couples comme nous en faisant don de ses ovocytes. Quand nous avons choisi de nous lancer dans ce parcours, ça n'a pas été une décision prise sur un coup de tête. Nous avons beaucoup prié pour remettre ce projet à Dieu, être à son écoute et accepter son plan pour nos vies, quel qu'il soit, avec ou sans enfant. Il y avait 1000 raisons pour que ça ne marche pas et au moins tout autant de baisser les bras. Pourtant, à chaque embûche, Dieu nous a soutenus, il nous a relevés et nous a pavé la suite du chemin.
Aujourd'hui, nous avons à cœur de vous partager quelques exemples concrets de l'action de Dieu dans ce parcours. Son origine se trouve dans une particularité médicale que j'ai depuis ma naissance. Dieu voulant, je vis très bien et normalement au quotidien avec ce souci de santé, mais ce n'est pas le cas d'autres personnes qui l'ont aussi, malheureusement sous des formes plus sévères. Il arrive alors que la maternité soit inenvisageable, car impossible physiologiquement ou trop dangereuse. Dans mon cas, c'est une réelle bénédiction. Ma situation médicale n'a pas été un mur qui a stoppé net toute possibilité d'avancer dans le parcours.
En 2023, nous avons pu faire 2 essais pour tenter de devenir parents. Un premier a donné une grossesse qui malheureusement s'est arrêtée après 1 mois. Ce fut une épreuve douloureuse et compliquée. Il nous a fallu du temps pour guérir, mais grâce à Dieu, nous en sommes ressortis fortifiés. Un 2e essai en septembre 2023 n'a pas donné de grossesse. Dans le doute que nous soyons destinés à être parents s'est installé et nous avons choisi de prendre du recul. Nous nous sommes concentrés sur d'autres projets en attendant de voir où Dieu nous guide. Un beau jour de novembre 2023, Élise a eu à cœur d'appeler le centre qui nous suit. Chose improbable, il décroche immédiatement. Nous étions plus habitués à appeler 20 fois avant d'avoir quelqu'un. Nous apprenons que nous avons le droit de faire une 3e tentative via une nouvelle donneuse, mais également que nous pouvons avoir un rendez-vous sous 15 jours avec la docteure qui nous suit, contre 6 mois d'attente habituellement. En effet, un créneau s'est libéré dans son planning. Beaucoup diront que c'est le hasard ou le destin. Nous croyons que c'est la main de Dieu qui n'a jamais cessé de nous paver le chemin. Et ça ne s'arrête pas là. Parce qu'à ce rendez-vous, nous redécouvrons cette docteure complètement transformée par rapport aux précédentes rencontres. Elle nous encourage, elle accepte de nous donner de la visibilité, luxe que nous n'avions jamais eu. Elle nous parle de potentiels nouveaux embryons début 2024, alors que la première fois, nous avions attendu plus 1 an. Mi-janvier, une donneuse nous est affectée, mais nous ne sommes pas prioritaires. En effet, les dons fonctionnent avec 2 listes, la liste prioritaire et la liste non prioritaire. Finalement, le centre nous rappelle en nous disant que pour cette donneuse, ça ne se fera pas, mais qu'il y en a une autre. Cette fois-ci, si le don se passe bien, nous sommes prévus sur la liste prioritaire. Encore aujourd'hui, nous n'avons aucune idée de la raison de ce changement de liste. Selon les règles, nous n'aurions jamais dû en changer. Merci Seigneur, car de cette donneuse, nous avons fait 1 tentative et celle-ci a abouti à la naissance de Noah.
Tout au long de cette grossesse extraordinaire, nous avons été gardés avec un suivi médical exceptionnel de bout en bout. Noah s'est bien développé malgré un placenta atypique. Pendant la 2e moitié de la grossesse, la spécialiste échographe nous disait qu'on pourrait s'attendre à un retard de croissance, mais que ce n'était pas le cas. Noah s'est accroché à la vie comme une moule à son rocher. Dieu voulait vraiment que nous le rencontrions. Il a rejoint notre famille le 9 novembre 2024. Nous avons enfin pu serrer dans nos bras notre bébé miracle et nous découvrons que c'est un petit garçon. Noah est né. Par la grâce de Dieu, notre vœu le plus cher est devenu réalité. Une réalité remplie de défis et d'opportunités, de questions et d'apprentissages, de fatigue et de bonheur, de stress et d'apaisement. Depuis que nous sommes parents, chaque jour, nous sommes infiniment reconnaissants pour ce don que Dieu nous a accordé. Seigneur, quelle bénédiction de voir le sourire de notre bébé soleil chaque matin. Par ta grâce, tu nous as donné jusqu'à ta vie à la croix il y a 2000 ans. Tu accomplis des merveilles dans les vies de chacun de tes enfants. Nous en sommes les humbles bénéficiaires. Quel privilège d'en témoigner aujourd'hui à travers l'histoire de Noah.
Noah, ce matin, nous voulons te remettre à Dieu en église, devant nos amis et nos familles. Nous avons prié pour toi depuis le moment où tu es entré dans nos vies et nous voulons continuer de le faire chaque jour. On va te laisser la place, Philippe, pour la suite.
Est-ce que vous me le prêtez quelques instants?
Il a un peu la bougeotte.
Ah là là, c'était réussite totale. Ils sont là, regarde. Tout va bien, ils sont là. Ça, c'est mon micro. Peut-être que tu as envie de faire un truc. Non, pas sûr. Eh ouais, il est là, papa, maman est là. Tout va bien. On va prier pour toi. Mais je te rends à ton papa. Tiens, comme ça, il n'y aura pas de drame. Tout va bien. Alors, je vous invite à un temps de prière. Je vais lancer ce temps de prière. Et puis ensuite, si dans l'assemblée, l'un ou l'autre souhaite s'exprimer, faites-le à haute voix. Et puis, Nico et Élise concluront ce temps et nous introduirons dans un chant tout particulier que vous avez choisi pour ce moment. Tout d'un coup, tu es un petit peu moins timide. Je vais prier pour Noah. Cher Seigneur, nous invoquons ton nom, ta grâce, ta bonté sur la vie de Noah. Merci de l'avoir créé de bout en bout. Merci de l'avoir voulu. Il compte pour toi. Merci de l'aimer comme déjà maintenant tu l'aimes. Ensemble, nous te demandons de mettre de la vie en abondance dans la vie de Noah. Qu'il puisse vivre de toi, se tourner vers toi, t'honorer par sa vie tout entière. Le parcours, il est exigeant, Seigneur, et toi, tu le sais. Alors nous te demandons, dans ta bonté, de lui donner les ressources dont il aura besoin au fil de la route. Je te prie pour Élise et Nicolas. Merci pour leur témoignage. Merci pour leur ténacité. Merci pour leur foi. Accorde à mes amis, ces chers parents, là aussi les ressources dont ils ont besoin pour emmener Noah vers l'indépendance. Aide-leur à lui parler de toi, à te montrer en action dans leur vie. Je les recommande à ta grâce, ainsi que les frères et sœurs, les grands-parents, la famille, les amis proches, tous ces gens qui vont compter dans la vie de Noah. Seigneur, répands ta grâce, s'il te plaît, en abondance, sur chacun, sur chacune. Et nous te prions ensemble, dans le nom de Jésus. Amen.
Notre profond désir est de l'entourer de tout notre amour de grands-parents. Donne-nous les mots pour qu'il sache que tu es son Seigneur et Sauveur. Nous te remettons tous les parents qui ont de la peine à concevoir un enfant.
Ouais.
Soutiens-les dans cette épreuve, qu'ils puissent trouver en toi un puissant réconfort. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Amen.
C'est toi, Seigneur, qui as formé Noah, qui l'a tissé dans le ventre de sa maman. Nous te louons de ce qu'il est, une créature si merveilleuse. Tes œuvres, Seigneur, sont admirables et nous le reconnaissons bien. Seigneur, on veut te bénir pour tout ce chemin parcouru, fait de combats, de luttes, mais aussi de confiance. Seigneur, merci de bénir Élise, de bénir Nicolas, de bénir Noah. Merci de les encourager dans leur quotidien maintenant en tant que parents. Et vraiment, nous te les remettons avec confiance. Ouais. Amen.
Oui, Seigneur Jésus, nous voulons bénir Noah, te le recommander particulièrement dans cette matinée. Nous voulons le faire en assemblée, en église, Seigneur. Et en faisant cela, nous prenons aussi nos responsabilités d'église, de l'accueillir, de le conduire au travers des différents groupes, du groupe de jeunes, etc. Merci d'avoir conduit des parents jusqu'ici avec lui et que vraiment nous puissions nous réjouir et vivre dans cet amour que tu donnes par rapport à nous. Oui, nous le bénissons. Garde-le, Seigneur. Amen.
Oui, Seigneur, nous sommes reconnaissants pour tout ce que les parents de Noah ont vécu avec ton aide, Seigneur, avec l'aide de ton esprit qui les a conduits. Merci encore, Seigneur, pour Noah. Et nous te le remettons, nous nous sentons également concernés par Noah, Seigneur. Nous voulons accompagner les parents dans la connaissance de ce que tu es, Seigneur. Leur Seigneur et leur Sauveur. Amen. Amen.
Seigneur, en entendant le témoignage des parents, nous voyons que ta parole est exaucée, que pour toi, rien n'est impossible. Et Seigneur, merci pour leur persévérance et que ça soit un encouragement pour chacun d'entre nous de persévérer et de garder les yeux fixés sur toi. Pour que tu en reçoives toute la gloire. Je te demande au nom de Jésus. Amen.
Oui, Seigneur Jésus, merci pour la présence de cet enfant. Merci, Seigneur, parce qu'il est présent aussi tout le long de la vie d'Élise et de Nicolas. Et Seigneur, merci pour ce cadeau, ce beau cadeau de cet enfant, avec ta présence tout au long de cette grossesse. Seigneur, nous voulons penser aussi que tu seras avec eux, avec les parents, tout au long de l'éducation de l'enfant. Alors, nous voulons te permettre, Seigneur, et aussi être disponible aux questions, aux interrogations qu'on a des fois en tant que jeune parent. Seigneur, pouvoir répondre, pouvoir être là aussi, une présence auprès d'eux. Alors, bénis cet enfant, Seigneur Jésus, bénis les parents. Et Seigneur, merci aussi pour ce témoignage que nous avons entendu ce matin. Ça encourage aussi nos vies. Et je crois, Seigneur Jésus, que ta présence est vraiment quelque chose d'important. C'est le plus important de pouvoir être. Pouvoir être avec toi.
Amen. Oui, courage, persévérance, amour. Amour, persévérance. C'est cette force d'amour de la nature qui fait tout le temps renaître, malgré les échecs, qui fait tout le temps rebondir. La nature en est un exemple. On coupe l'herbe, on coupe un arbre, ça repousse en permanence, en persévérance. Et merci pour cette force de la nature, cette force de Dieu qui est en nous, qui est dans la vie. Et nous lui faisons confiance pour nous pousser tout au long de nos vies au maximum dans tout ce que nous entreprenons.
Sur la vie de Noah. Nous voulons aussi avoir une pensée pour ceux qui rament sur ces questions de de parentalité, de mise au monde. Seigneur, sois à leur côté. Te remercions aussi pour ces femmes qui font don d'ovocytes. Te prions pour elles. Te prions pour les équipes médicales et leur accompagnement millimétré. Nico et Élise nous en ont dit quelques mots. Te demandons de renouveler ces femmes et ces hommes au service de la vie. Et merci pour la vie qui triomphe en fin de compte. Merci pour Noah encore, Seigneur. Et nous te demandons de faire reposer sur lui toutes les ressources de ta grâce. Amen.
Dieu et Père, merci de tout cœur. C'est avec humilité et animé par ton amour éternel qu'on te remet la vie de notre fils Noah. Que ton Saint-Esprit le protège, le guide, l'inspire, l'édifie et l'anime chacun des jours que tu as prévus pour lui.
Notre reconnaissance pour Noah est infinie. Nous te prions pour que toute sa vie, tu sois là pour lui, que tu mettes sur son chemin des gens qui sauront le guider dans ce monde si difficile où plus que jamais nous avons besoin de toi et de ton amour dans nos vies. Nous te prions pour que Noah un jour choisisse ton fils Jésus comme sauveur personnel, lui qui a donné jusqu'à sa vie pour nous. Nous te prions pour que Noah porte ton message d'amour dans le monde. Nous te prions pour que les ténèbres n'aient pas de prise sur lui et qu'en toutes circonstances, il se rappelle que tu es grand et que même au cœur de la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec lui. Seigneur, en tant que parent, en tant que famille, en tant qu'ami, en tant qu'église, je nous remets entre tes mains pour que nous soyons tous les porteurs fidèles de ton message pour l'humanité auprès de Noah. Dans le précieux nom de Jésus, amen. Pour conclure ce temps de présentation, et avant de passer à la prédication de Philippe, nous vous proposons d'écouter ou chanter avec nous juste un souffle de Glorious.
Juste un souffle de ta bouche et me voici. Rien qu'un battement de ton cœur me donne vie. Au commencement du monde, ton cœur a parlé. Avant toute chose, tu m'as désiré. Tu as créé les étoiles et ces millions de galaxies, dessiné ces paysages par le souffle de l'esprit, et ton cœur de père a désiré ma vie. Et ton cœur de père a désiré ma vie. De ta main tu peins les étoiles et le ciel. L'univers répond au son de ton appel. Dans le désir de ta grâce, créé de tes mains, image et souffle de ton amour divin. Tu as créé les étoiles. Ces millions de galaxies, dessiner ces paysages par le souffle de l'esprit, et ton cœur de père a désiré ma vie, et ton cœur de père a désiré ma vie. Tu as créé les étoiles et ces millions de je serai uni avec les saints devant la beauté de ta face sans fin, prosterné devant ton trône, des hommes et des anges uniront leur voix, proclamant leur louange. Oh, là où brillent les étoiles, où ton amour a donné vie, dans les cieux nous chanterons avec les anges à l'infini. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit.
Alors merci à Élise et Nicolas pour ce très beau témoignage. Il est vraiment super chou, Noah. Et je vais vous lire maintenant un texte de la Bible sur lequel Philippe, notre pasteur, tiendra la prédication. Ce texte se trouve dans l'Évangile de Luc, au chapitre 2. Et je lis les versets 41 à 52. Et là, il est aussi sujet d'un enfant. Chaque année, les parents de Jésus montaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Lorsque Jésus eut 12 ans, ils l'emmenèrent avec eux selon la coutume. Quand la fête fut terminée, ils repartirent. Mais l'enfant Jésus resta à Jérusalem et ses parents ne s'en aperçurent pas. Ils pensaient que Jésus était avec leurs compagnons de voyage. Et ils firent une journée de marche. Ils se mirent ensuite à le chercher parmi leurs parents et leurs amis, mais sans le trouver. Ils retournèrent donc à Jérusalem en continuant à le chercher. Le troisième jour, ils le trouvèrent dans le temple. Il était assis au milieu des spécialistes des Écritures, les écoutait et leur posait des questions. Toutes les personnes qui l'entendaient étaient stupéfaites de son intelligence et des réponses qu'il donnait. Quand ses parents l'aperçurent, ils furent saisis d'émotion et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Ton père et moi, nous étions très inquiets en te cherchant. » Il leur répondit « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Jésus repartit avec eux à Nazareth. Il leur obéissait. Sa mère gardait en elle le souvenir de tous ces événements. Et Jésus grandissait, il progressait en sagesse et se rendait agréable auprès de Dieu et de chacun.
Merci Aline. Imaginons Noah dans quelques années. Disons à l'occasion de ses 12 ans. Noah, qui se rend avec ses parents, Élise et Nicolas, en voyage à Paris. Ben ouais, 12 ans. Ça se fête. Alors, on monte à la capitale. Un court séjour intense et festif. Et puis, vient le moment de rentrer. Et toute la famille rejoint la gare de Lyon pour y prendre le TGV du retour. C'est un jour sans grève. Ça devrait se faire. Toute la famille ? Non, parce qu'au bout d'un moment, on se rend compte qu'il manque Noah 12 ans. 12 ans. Dans la tradition biblique, c'est la durée de vie qui conduit des enfants à devenir des adultes dans la foi. 12 ans. C'est l'âge de la bar mitzvah pour les garçons et de la bat mitzvah pour les filles dans le judaïsme. C'est ce moment où l'enfant, 12 ans, est reconnu adulte par la communauté. C'est-à-dire qu'il est reconnu en mesure de pouvoir lire, comprendre, appliquer la Torah, la Bible des Juifs, l'Ancien Testament. 12 ans. L'adolescence, c'est une invention relativement récente. Réfléchissons un peu à ce que peut donc signifier devenir adulte dans la foi, pour découvrir ce que Noah, nos enfants, sont invités à vivre, et chacun, chacune de nous avec eux. Pourrions résumer cela par une formule empruntée pour partie à l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour perdre et un temps pour retrouver. Il y a un temps pour recevoir et un temps pour s'impliquer. Et je vous propose de voir que ce cheminement, c'est un cheminement de liberté. Parce que la foi chrétienne, c'est fondamentalement un chemin de liberté. Et seul l'Évangile peut tracer un chemin de liberté comme celui-là. Le premier élément qui fait de nous un adulte, c'est la distance que l'on prend à l'égard de ses parents. Dans la Bible, il avait fallu qu'Abraham quitte la maison familiale. Moïse, lui aussi, devra quitter sa mère nourricière, celle qui l'avait recueillie. Et tous deux, Abraham comme Moïse, feront l'histoire. Et quelle histoire ! Et ici, dans notre texte de ce matin, c'est Jésus lui-même qui lâche ses parents. Comme Saül, qui avait quitté son père, Kish. Et comme David, qui avait non seulement quitté son père et ses frères, mais ensuite qui avait quitté le troupeau familial pour aller combattre son premier géant, Goliath. Il a fallu quitter, s'affranchir pour affronter. Et dès le livre de la Genèse, l'histoire de l'humanité s'écrit de cette façon. Elle s'écrit, l'histoire de l'humanité, en disant « Nous quitterons père et mère » pour nous attacher à notre conjoint, et alors nous deviendrons une seule et même entité, une même chair. Et ce n'est pas que le sexe, la même chair. C'est une manière de dire qu'une nouvelle existence voit le jour, qu'une nouvelle existence s'engage dans une nouvelle histoire, un nouveau projet. Et à quelque part, je trouve que c'est un peu la même chose avec ces jeunes de 11, 12, 13 ans qui quittent leurs parents au moins un soir par semaine pour rejoindre qui un groupe de jeunes comme ici, le caté, ou alors une formation scout, et puis participer à un premier week-end hors de la maison, première soirée pyjama ou un premier camp. Et c'est là souvent pour eux la première fois qu'ils dormiront loin des parents, la première fois qu'ils se mettront à cuisiner tout un repas, la première fois qu'ils assumeront eux-mêmes toute une panoplie de rangements. Vous avez des enfants. Puis, dans leur histoire, il y aura tellement d'autres premières fois, comme lors d'une promesse amicale, amoureuse, ou la première fois pour un engagement strictement personnel, une décision intérieure, comme celle de la conversion au Christ. Puis tant d'autres premières fois, avec des géants à vaincre, parce que l'existence n'est pas simple. Ce texte biblique, lu ce matin, est l'image d'un groupe de jeunes que l'on rejoint et dans lequel on s'implique. Ça nous aide à comprendre le sens de la présentation de Noah. Noah, il est au bénéfice de l'amour de sa famille. Il est au bénéfice d'une riche histoire familiale dans laquelle il aura de quoi forger son caractère, de quoi se passionner pour de nombreux aspects de la vie. Et ça, les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, vous allez être déterminants dans la vie de Noah pour le faire se passionner. Noah, il n'est pas là ce matin par hasard. Mais il est là parce que ses parents l'ont espéré, l'ont voulu, l'ont conçu, l'ont accueilli. Et c'était parfois un parcours du combattant. Vous nous l'avez dit avec pudeur et sincérité. Vous avez été remarquablement courageuses et courageux. Chers amis, Nico et Élise, vous avez toute mon admiration. Noah, il n'est pas là ce matin par hasard, mais parce que ses parents ont à cœur de développer en lui tout ce qui lui sera nécessaire pour devenir un jour non plus un enfant, mais un homme libre. Et pour ce faire, ses parents prennent soin de sa vie spirituelle. La présentation d'un enfant dit que l'amour de Dieu est vrai dès notre plus jeune âge. De même que l'amour des parents n'attend pas les premiers succès de l'enfant pour se manifester pleinement. Et même que cet amour, il se renforce au cœur de l'adversité, de la révolte, de la volonté d'indépendance. Et que c'est là que l'amour est le plus fort, quand l'autre souffre, et que cet autre est une prolongation de soi-même. Ce geste ce matin dit la grâce de Dieu qui aime, sans condition, ce que les parents incarnent au quotidien. Nous aimons nos enfants sans condition. Ce geste ce matin dit aussi que nous avons un avenir personnel et cet avenir se réalise aussi par la prise de distance à l'égard de nos parents, de nos traditions, pour tracer un chemin choisi, personnel, assumé. Ce geste ce matin, il est prémisse de baptême un jour pour Noah, je le souhaite, je l'espère. Un geste qui dit la même promesse que les évangélistes rapportent au moment du baptême de Jésus. Tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Noah, il est au bénéfice de l'amour de Dieu. Et il découvrira en Dieu une autre figure parentale aimante et impliquée. Il découvrira qu'il y a un au-delà à ses parents. Et ce sera votre responsabilité, chère famille, chers amis, ce sera notre responsabilité de rappeler à Noah qu'il y a un au-delà à l'horizon de la seule famille biologique et nucléaire. Si jamais Élise et Nicolas devenaient soudain un peu trop possessifs, il faudra le leur rappeler. Eh oui, Nicolas, je sais que c'est pas facile. en particulier pour un père, pour une mère aussi, certainement, hein, mais d'entendre qu'il n'est pas le seul homme dans la vie de son fils ou de sa fille. Ce n'est pas facile à recevoir. Mais voilà, il y a des vérités théologiques qui sont plus importantes que nos seuls sentiments. Ce premier aspect marqué par la séparation, c'est la liberté à l'égard des entraves qui s'installent presque toutes seules dans une vie. C'est la liberté au sens de ce qui nous déleste, de tout ce qui viendrait nous brider, ralentir, peser, ce qui nous empêche d'aller de l'avant dans la direction qui nous convient à nous. C'est la liberté de se lancer dans le grand bain de la vie et de toutes ces aventures qui la traversent, en tâtonnant peut-être, mais avec confiance et sens. Parce que aimer des siens, aimer de Dieu. Le deuxième aspect, avant de conclure, le deuxième aspect de la liberté, c'est justement la possibilité de faire des trucs, de faire des choses, d'être audacieux, d'être l'auteur de certains accomplissements. Bien sûr, d'essuyer des plâtres aussi, c'est clair. Parce que l'Évangile ne nous dit pas qu'il suffit de quitter ses parents pour devenir adulte. Il n'a pas suffi aux Hébreux de quitter l'Égypte pour devenir libre. Quitter pour quitter, c'est courir le risque de devenir errant. Quitter pour quitter, quoi que ce soit que l'on quitte, c'est prendre le risque de devenir errant. Abraham a quitté sa patrie pour s'orienter vers l'avenir que Dieu lui indiquait. Israël a quitté l'Égypte pour rejoindre une terre nouvelle. Jésus était dans le temple en train de discuter avec les docteurs de la loi, les théologiens de l'époque. Et il le fait, dit-il, pour s'occuper des affaires de son père, pour se lancer dans son ministère, en fait, 12 ans. S'il faut quitter père et mère, c'est pour s'attacher à ceux et celles avec lesquels nous allons pouvoir écrire de nouvelles pages de notre histoire. Un conjoint, une conjointe, des amis, une communauté. Écrire ce qui n'a encore jamais été composé. Réaliser ce qui n'a encore jamais été esquissé. Si devenir adulte passe par l'éloignement avec ses parents, c'est pour avoir la place de développer sa propre personnalité et d'apporter ses propres réponses aux défis de la vie. Dans cet épisode biblique, notre traduction dit que les gens qui entendaient Jésus étaient stupéfaits ou s'étonnaient de ses réponses pleines d'intelligence. Verset 47. La rédaction grecque est particulièrement intéressante ici parce que le verbe qui est utilisé, c'est le verbe « existémi ». Istémi, tout seul, ça veut dire se tenir, se dresser. Existémi signifie se tenir hors de, être hors de soi, être saisi. Les gens qui écoutaient Jésus étaient saisis, hors d'eux-mêmes, stupéfaits. Ils n'étaient plus les mêmes. Ils avaient mis un pied plus loin que ce à quoi ils avaient été habitués jusqu'ici. Ils touchaient quelque chose de neuf, de sacré. Ils avaient élargi l'espace de leur tente. Leur compréhension du monde, tout d'un coup, était devenue plus grande. C'est de ce verbe, existémi, que vient notre mot français d'extase. Existémi, c'est l'extase. L'extase au sens religieux, ce n'est pas une posture sensuelle que seuls quelques sculpteurs florentins auraient réussi à saisir au moment de la Renaissance. L'extase, c'est s'ouvrir à de nouvelles réalités de notre monde. C'est la révélation que nous sommes plus grands et plus capables que ce que nous imaginions, que la vie est bien plus que ce que nous imaginions, que les cadres peuvent être explosés, que le code peut être redéfini. C'est l'expérience que font les jeunes du KT pendant un week-end ou un camp, l'extase. C'est l'expérience que des scouts font dans leurs activités. C'est des moments qui révèlent qu'il nous est possible d'agir dans le monde, d'y être engagé, pertinent, décisif. Des espaces qui nous enseignent à apporter nos questions, nos réponses personnelles, à cheminer, découvrir, s'extasier. Des espaces qui nous font découvrir bien des aspects de la vie, à commencer par le fait qu'il faut faire bouillir de l'eau avant d'y jeter les pattes. Ça peut provoquer un sentiment extatique. Il y a une forme d'extase, à savoir s'orienter parce qu'on sait utiliser les points remarquables d'un paysage qu'on repère sur une carte. Il y a une forme d'extase à tourner les pages de sa Bible et à y découvrir un Dieu qui nous aime, qui nous accueille, qui nous libère. Il y a une forme d'extase à transformer de la moutarde en jaune d'œuf et de l'huile en une mayonnaise. Il y a une forme d'extase à savoir nouer ensemble les deux bouts d'un lacet qui vient de casser et ainsi pouvoir fermer ses chaussures, marcher de nouveau, marcher encore, se relancer. Et la vie spirituelle connaît aussi ces extases. C'est ce qu'est censé faire la catéchèse avec nos enfants, nos jeunes adultes, provoquer de l'extase. C'est ce qu'est censé faire pour une part le culte, nos ateliers bibliques, les moments de prière personnelle, les moments de prière collective, les moments d'action, les temps autour de la table ou de la table de communion, provoquer une extase, nous faire nous tenir en dehors de nous-mêmes. Découvrir que celui qui se tient là est un frère, une sœur, même s'il n'a pas le même ADN que moi. Découvrir des parcours personnels passionnants. Découvrir la simplicité de la confiance. Découvrir la puissance du pardon dans les relations interpersonnelles. Découvrir les bénéfices de l'amour inconditionnel de Dieu, donc sur celles et ceux que nous n'apprécions guère. Vous savez, la vie spirituelle, la foi chrétienne, ça nous rend plus grands que notre propre corps. C'est ça l'extase. La vie spirituelle, la foi chrétienne, ça nous fait exister, ça nous fait nous déployer. La découverte de Dieu, les relations interpersonnelles, les expériences faites ensemble, ça nous sort de nous. Tout ce qui nous enseigne de nouveaux aspects de la vie, tout ce qui nous révèle la profondeur de l'humanité, tout ce qui nous fait exister, devenir beau et belle. Nos enfants nous font exister. En nous révélant des aspects de notre personnalité que nous n'imaginions même pas. Nos enfants nous font exister parce qu'ils apportent leur touche personnelle à la création du monde, parce qu'ils vont plus loin que nous. Et à chaque fois, comme Marie, nous repassons toutes ces choses en notre cœur. Nous aussi, nous connaissons l'émerveillement et l'étonnement des parents qui constatent que leur enfant est plus grand, plus dégourdi, plus astucieux que ce qu'ils pensaient. Il faut qu'un jour, les enfants ne soient plus sous la tutelle de leurs parents. C'est indispensable pour les premiers temps d'être sous la coupe des parents. Vous avez vu, Noah, il a eu besoin qu'Élise l'aide à descendre les escaliers. Mais dans quelques semaines, mois, il n'en aura plus besoin. C'est indispensable donc d'aller sa propre route, de faire ses propres expériences, ses propres choix, de prendre son envol et des risques. Sinon, nous ne serons jamais que le clone de ceux qui nous ont prodigué ce dont nous avions besoin. et nous n'apporterons rien de neuf au monde. Or, nous révèle Jésus, il y a un appel à être des interlocuteurs du monde, des interlocuteurs impliqués, à apporter une réponse personnelle aux questions, aux défis monumentaux qui se posent de nos jours dans une société tellement fragmentée. Qu'est-ce que nos enfants vont apporter ? C'est ainsi que nous pouvons aider l'histoire à ne pas trop bégayer, à ne pas être une inlassable répétition du même scénario. C'est ainsi que nous pouvons donner du sens, une espérance à portée de la vie, en permettant à chacun de se tenir face à Dieu, et donc à ne plus être uniquement orienté vers ses parents. Ça, c'est ce que fait la religion dans un sens premier. Des fois, nous, les évangéliques, on dit on n'aime pas la religion. Mais c'est faux. La religion, c'est religiare, c'est relier. On veut relier les gens ensemble à Dieu et nous les uns aux autres. Ce n'est pas honteux, la religion. Et pour conclure, c'est ce que fait la foi personnelle, qui nous permet de nous situer dans le monde, d'accueillir toute la grâce de Dieu et d'en vivre enfin. C'est ce que fait la foi en encourageant chacun, chacune à exercer des responsabilités, donc à orienter ses aptitudes, ses compétences vers un idéal de justice et de vivre ensemble. Ici à Mérin, ici, nous voulons susciter des hommes et des femmes libres, capables d'engager leur énergie, leur intelligence, leur créativité, leur enthousiasme, leur foi dans toutes les aventures qui rendront, j'espère, notre monde un peu plus humain et ouvert à la grâce de Dieu. C'est notre prière pour Noah, qui est à l'aube de sa vie. C'est notre prière pour nos enfants, nos préados, nos ados, nos adultes, nos aînés. C'est notre prière pour les générations qui viennent. Grâce et paix soient sur vous tous et toutes. Amen. Et nous allons chanter ensemble, je crois, c'est notre Père, la prière que le Seigneur Jésus nous a laissée, et je vous invite à vous lever pour la chanter.
Comment se manifeste le fait de devenir adulte dans l'Église, ou plutôt dans ma relation avec Dieu? Il y a la distance que l'on prend à l'égard de ses parents, mais il y a aussi parfois des rites de passage de l'enfance à l'âge adulte. Il y a des fois un processus, on parle de préadolescence, d'adolescence, de jeune adulte, et après d'adulte peut-être. Mais une chose qui me semble importante, c'est lorsque je prends conscience de l'importance de la croix. Je commence à devenir adulte dans ma relation avec Dieu lorsque je réalise que je suis séparé de lui, parce que je ne suis pas à la hauteur, même si j'ai l'impression de bien faire ou de faire de mon mieux, et que seul sa mort et sa résurrection me permettent de m'approcher de lui. Et c'est ce que nous voulons justement vivre par ce temps de scène.
Alors juste avant de prendre la scène, j'aimerais un peu resituer le contexte. Nous nous trouvons peu avant la fête de la Pâque et Jésus prend un dernier repas avec ses disciples. Il sait qu'il va mourir. Et il sait aussi qui va le trahir, donc Judas, un de ses propres disciples. Après son arrestation, Jésus meurt sur la croix, et il meurt pour nous, pour chacun d'entre nous, pour la rémission des péchés, alors que lui est totalement innocent. Et lors de ce dernier repas avec ses disciples, Jésus prend le pain. Il remercie Dieu et il le rompt. Et il dit ceci: prenez et mangez, car c'est mon corps. Et après avoir dit cela, il prend la coupe de vin. Il remercie Dieu une nouvelle fois et il la donne à ses disciples en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang qui garantit l'alliance de Dieu et qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le déclare, dès maintenant, je ne boirai plus de ce vin, jusqu'au jour où je boirai avec vous le vin nouveau dans le royaume de mon Père. Et avant de procéder à la distribution, j'aimerais bien prier avec vous. Seigneur, nous te remercions pour le fait que tu nous pardonnes tout. Mais pas seulement cela. C'est encore bien plus. Grâce à ton acte, nous avons la possibilité de parler directement avec toi, le Créateur de l'univers, le Roi des rois. Merci que chacun d'entre nous ait la possibilité de venir à toi, tel que nous sommes, et que tu nous acceptes tel qu'on est. Merci qu'on puisse communiquer avec toi comme avec un ami, et que tu nous parles et guides avec beaucoup de bienveillance. Merci pour ton acte que tu as fait à la croix pour nous. Amen. Le pain et le vin vont être maintenant distribués dans les rangs. Et j'aimerais juste vous dire, sentez-vous libre de participer à cette sainte scène ou pas, vous le faites comme vous le sentez. Et si vous ne voulez pas y participer, vous laissez tout simplement passer le pain et le vin dans les rangs. Et ceux qui ont été désignés pour faire passer tout ça prennent la responsabilité de le faire passer, de le faire suivre, quoi. Merci. C'est bon? Ceux qui veulent boire à la coupe, vous pouvez lever la main, s'il vous plaît, comme ça, nous, on sait, on vient vers vous. Merci. Après ce repas, j'aimerais encore remercier pour ce que Dieu vient de nous donner. Seigneur, merci pour ton amour pour chacun d'entre nous, pour ta grandeur et pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour tous les miracles que tu es prêt à accomplir dans nos vies, dans cette église, dans le monde. Merci pour ton pardon que tu nous accordes à chaque instant. Et merci pour ton extrême bienveillance envers nous. Amen.
Avant de passer un temps d'annonce, je lance aussi un temps d'offrande, un temps où on peut donner de manière libre, sans pression. C'est à la fois un moment technique, pratique. Il y a des paniers qui vont circuler, il y a Twint. Ça permet de financer des salaires, des locaux, des projets. Mais c'est aussi un moment où on se place devant Dieu et on montre sa reconnaissance, notre confiance et son engagement pour lui, pour son royaume. Voilà. Et pendant ce temps-là, pour gagner un petit peu de temps, je laisse faire aussi les annonces.
Voilà, bonjour à tous, bonjour à toutes, bonne année à ceux que je n'ai pas encore vus depuis le début de l'année. Quelques annonces, un petit peu plus que d'habitude, désolé, mais voilà, c'est le début de l'année, je vais essayer d'aller vite. D'abord, merci à ceux et celles qui ont participé au sondage par rapport à nos rencontres de prière communautaire. Ça nous a donné des informations utiles, importantes pour voir comment on continue. Le conseil a besoin d'un petit peu de temps maintenant pour décortiquer tout ça, réfléchir, discerner comment on continue. Et puis, dès que ça sera fait, on viendra vers vous. En attendant, voilà, on n'a pas planifié de rencontre de prière communautaire ce mois-ci. Que cela ne vous empêche pas de prier, s'il vous plaît, de vous rassembler même, n'est-ce pas? Mais voilà, en tout cas, on n'a pas quelque chose d'officiel qui est planifié pour l'instant. Vu qu'on parle de prière, j'aimerais aussi vous rappeler qu'à la fin de chaque culte, il y a toujours une ou deux personnes qui sont disponibles pour prier. Voilà, c'est un service qui est offert, il est là pour vous, que ça soit en lien avec ce qui a été vécu dans le culte ou toute autre chose, ces personnes sont là, disponibles, donc profitez-en. En général, elles ont un badge bleu avec marqué prière dessus, donc c'est facile à les reconnaître. Si vous ne les trouvez pas, posez des questions, venez vers nous et puis on les retrouvera. Mais voilà. Faites bon usage de ce service qui est là pour vous. En février et mars, Séverine Heiniger organise des ateliers de communication parents-enfants selon la méthode Faber et Maslisch. J'espère que je le dis bien. 6 dates avec à chaque fois un thème différent comme aider les enfants en prise avec des sentiments pénibles, susciter la coopération, encourager l'autonomie, etc., etc. Vous trouverez plus d'informations dans l'actu Mérin, que vous avez déjà reçu normalement, sur l'écran à l'entrée aussi, et puis bien sûr auprès de Séverine, vous pouvez lever la main s'il y en a qui ne te connaissent peut-être pas encore, voilà, si jamais c'est une source sûre d'informations, la meilleure certainement, et puis les inscriptions se font aussi auprès d'elle. N'hésitez pas à en parler aussi autour de vous, hein, c'est vraiment ouvert à tout le monde, c'est pas un programme chrétien, spirituel, donc allez-y, profitez, c'est une bonne occasion. Et puis inscrivez-vous vite si ça vous intéresse parce que les places sont limitées. Cette semaine qui vient, là, c'est la semaine universelle de prière. Une semaine pour prier ensemble en église. Ici à Genève, chaque jour, il y a une soirée qui est organisée, à chaque fois dans une église différente. Donc on peut se joindre à chaque fois à ces différentes soirées, soit une soirée, soit plusieurs, comme vous voulez. Le programme complet est disponible sur ces petits papillons qui sont à la sortie. Et puis il y a aussi, pour ceux qui le désirent, peut-être prier à la maison et suivre chaque jour les thèmes, des brochures comme celle-là. Je pensais qu'il en restait qu'une, mais je viens de découvrir qu'il y en a une ici, donc il y en a deux. Donc les premières deux personnes qui viendront vers moi à la fin du culte, voilà, vous pourrez avoir une brochure si vous le désirez. Après, il n'y en aura plus, mais il y a tout ce qu'il faut aussi en ligne si jamais. Aussi pour vous dire que le 8 février, il y a le culte du réseau évangélique à Palexpo, comme chaque année. On vous encourage à y participer, si c'est possible pour vous. Mais pour celles et ceux qui ne pourraient pas s'y rendre, comme l'année passée, il y a quelque chose qui sera organisé ici. Ce ne sera pas un culte, mais voilà, il y aura quelque chose et vous êtes tous et toutes les bienvenus aussi
pour ce temps qui sera organisé. Un petit peu plus loin, on avance dans l'année. Le 13 mars, nous aurons un colloque. Donc, merci de noter déjà cette date dans vos agendas. Plus d'informations suivront. Il y a même le pasteur qui découvre ça. Ah non, tu avais l'air surpris. Ok, il se réjouit, c'est bien. Voilà, plus d'informations dans l'actu Mérin et puis à suivre. On avance encore un petit peu. Là, on arrive en octobre. Une autre date importante, un week-end d'église. Ceux qui étaient là au dernier, on a passé un très bon moment, hein, on s'en souvient. Et puis, on se réjouit déjà du prochain. Donc voilà, réservé, 10 et 11 octobre, week-end d'église. Et puis, un petit peu avant, je ne vais pas dans l'ordre pour la dernière annonce, après les vacances d'été, nous planifions un cours alpha, comme on l'avait déjà fait. On vous dit ça un peu à l'avance pour plusieurs raisons. Ben déjà, pour que vous puissiez prier, c'est important pour ce cours alpha. Aussi, pour que vous puissiez peut-être vous dire, ben, est-ce que j'ai envie de participer ou non? Ou peut-être que vous avez des amis, des voisins, des collègues à inviter pour ces cours alpha. Ces cours alpha, voilà, je ne vais pas en dire trop ce matin, mais c'est génial. Okay, moi, j'y crois, j'y ai participé, c'est un outil génial pour soit un petit peu revigorer sa foi, redécouvrir les bases de l'évangile ou faire découvrir cela à quelqu'un qui peut-être ne connaît pas ça. Et c'est vraiment une manière de faire qui est adaptée à ceux qui ne sont pas forcément des gens d'église aussi. Il y a un repas, il y a une vidéo et puis un temps de discussion vraiment ouvert. Et voilà, tous ceux qui ont participé à ce parcours sont en général ravis. Donc, pensez déjà à se dire, ok, est-ce que j'aimerais inviter quelqu'un? C'est important, ces cours ne peuvent pas avoir lieu s'il n'y a pas de gens qui participent. Okay, donc, on compte sur vous pour cela. Voilà, et puis, pas une annonce, mais un sujet de reconnaissance pour bien finir ce temps d'annonce. J'aimerais inviter Valérie Pellegrini, qui est la sœur de Jean-Christophe, à apporter un petit témoignage.
Bonjour à chacun, merci infiniment de me laisser la parole. Comme ça a été dit, je suis la sœur de Jean-Christophe et donc j'ai grandi dans la communauté ici. Et en décembre passé, on m'a diagnostiqué un cancer du sein. Alors évidemment, ce fut un choc pour moi et toute la famille. Et j'ai désiré partager cette information. Et en fait, ça a apparu aussi dans votre chaîne de prière. Et j'ai eu le grand privilège de pouvoir vivre ce que c'est d'être soutenue par la famille spirituelle. Et vraiment, c'est pour ça que je suis là ce matin, pour vous dire un immense merci pour vos messages, pour vos prières, et qui ont aussi été reliées à mes parents. Et quand je téléphonais à ma maman, elle me disait toujours « Ah, il y a tel et tel qui m'a demandé des nouvelles ». Alors, ouais, vraiment, merci infiniment. Et un grand merci aussi au Seigneur, parce que voilà, je suis bien. J'ai un contrôle encore en fin de ce mois, mais j'ai bien supporté les 6 mois de traitement. Et même à la fin de ces 6 mois, j'ai pu, une semaine après, faire un camp. Donc voilà, merci Seigneur et merci pour vos prières.
Merci, que Dieu continue à veiller sur toi. Merci aussi pour votre participation au niveau de l'offrande. Que Dieu bénisse cet argent et qu'il puisse être utile à son royaume. Et pour terminer.
Alors, nous sommes arrivés gentiment à la fin de ce culte. J'aimerais, s'il vous plaît, vous demander de vous lever pour que je puisse vous bénir, lire la bénédiction. Et puis pour aujourd'hui, en pensant tout spécialement à Noah et à sa famille, j'ai choisi les premiers versets du psaume 138. Donc je vous les lis. « Seigneur, je veux te louer de tout mon cœur, devant les puissances du ciel. Je veux te célébrer par mes chants et m'incliner face à ton sanctuaire. Dieu qui est présent, je veux te louer pour ta fidèle bonté, car tu as fait plus que tenir ta promesse. Plus que nous attendions de toi. Quand je t'ai appelé, tu as répondu. Tu m'as rempli de courage et de force. Amen. Et c'est ce que je souhaite à tous, à vous ici, et tout particulièrement à Noah et à sa famille, donc de voir que Dieu fait plus dans vos vies que ce que vous attendiez. C'est quelque chose de magnifique. Et j'aimerais aussi remercier toute l'équipe qui a rendu possible ce culte, à ceux qui étaient sur scène, à la musique, à Philippe, à Joël. Mais aussi, il y a beaucoup de gens qui contribuent un petit peu en dehors de la scène, derrière ou à la cuisine, on les voit moins. Mais ça contribue tout aussi au bon fonctionnement de ce culte. Donc je pense aux gens à la sono, à la technique, aux gens qui ont préparé un magnifique apéritif à la cuisine et qui ce magnifique apéritif nous attend. Donc voilà, je vous souhaite un bon dimanche. Soyez bénis et vraiment plein de bonheur pour vous pour cette semaine. Merci, bon dimanche.